Qu'est-ce que tu racontes?
Había una vez una historia.
Hey, what you say?
Sos que penaftu prala. Yek paramisha.
Qu'est-ce que tu racontes?
Qu'est-ce que tu racontes? Une émission sur l'oralité, les contes, les légendes et aussi des interviews, des questionnements, des reportages.
Qu'est-ce que tu racontes? Votre émission de contes.
Tous les mercredis à 15h.
Qu'est-ce que tu racontes?
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Juju.
Salut.
Ça qui fait... est aujourd'hui avec nous aux manettes.
Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était vu.
Ouais, c'est ça. Nos chemins se croisent.
Ouais.
On est là.
Et là, on est ensemble derrière le micro.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, bonjour. Moi, j'ai envie de dire aussi bonsoir, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent en replay plus tard dans la soirée. Voilà, comme des podcasts. Ils se mettent ça dans un coin de l'oreille, juste au moment de s'endormir. Et quelle bonne idée pour passer une bonne nuit. Sauf quand Pepo se jette à fond sur son accordéon et ça l'a plutôt réveillé qu'endormir. Mais bon... Ça va. En tout cas, merci de nous rejoindre et d'être fidèle à Radio
Dynamo.
Dynamo.
Ouais.
Telle la charade.
Ouais. Aujourd'hui, je vais vous lire deux contes. Je dis bien, je vais les lire parce que c'est des contes d'auteurs et ça me tient particulièrement à cœur de vous les donner comme je les ai découverts. C'est des contes de Myriam Ruby, qui est une conteuse, écrivaine, qui anime des ateliers d'écriture. Enfin, elle fait plein de choses et j'aime son écriture. Alors, je l'ai eu tout à l'heure, demandé bien sûr l'autorisation. Elle la donne bien volontiers. Et voilà, c'est parti. Ono était beau. Ono était heureux. Ono était beau parce qu'il était heureux et que sa joie simple passait comme un ray de lumière par la fente de ses yeux. Le jour, il travaillait au champ. Le soir, il partageait avec ses parents repas et tendresse à feu doux. Des lueurs de chandelles traversaient leur maison et se perdaient dans les ténombres autour. Mais un bonheur comme ça, bien sûr, ça ne pouvait pas durer, parce que ça attire les mangeurs d'âmes et les désespérés. Un esprit affamé, une bête maigre qui chassait par là, renifla le rire tendre d'Ono et en eut le vertige. Elle s'approcha de la maison aux cloisons fines et colla ses yeux verts. C'était la kitsune, la renarde au sans-vie, l'insatiable, la dévoreuse, l'amoureuse. Lorsqu'elle voit Ono, elle n'a plus faim que de lui. Chaque murmure, chaque soupir échappé du garçon, elle l'avale, s'en remplit, s'en déborde, sent bientôt que ses flancs sont trop maigres pour tout contenir de lui. Alors, pour la 101e fois, elle redevient femme. Toutes les femmes, toutes les renardes, depuis la nuit des temps. Son pelage tombe. Son corps se déploie en courbe sous la lune, s'asperge d'étoiles, se couronne d'une chevelure en flamme. Un voile brumeux la déshabille, une perle lui à son front, elle s'approche. Ses lèvres rouges d'un coin de fenêtre, et il souffle son désir fou et son souffle passe dans la bouche d'Ono, et dans la bouche d'Ono, les mots tout à coup s'en mêlent. Son corps se débat, il étouffe, il titube vers la porte et plonge dans les ténèbres. Un tourbillon de bras, de jambes, de morsures douces et de baisers féroces l'emporte au creux des bois. Toute la nuit, la kitsune donnera à son amant la mousse sur la pierre, la feuille sous l'étoile, le chant, l'oiseau, le cri, et lui volera tout le reste. Aux premières éclaboussures de l'aube, le visage de la femme renarde s'allonge, imperceptiblement, et un duvet léger cuivre sa peau. Mais Ono ne voit rien, ou bien voit autre chose. Dans un dernier baiser affolé, elle souffle. Ce soir, même arbre, même étoile, et disparaît. Les bras d'Ono se referment sur le vide et tout devient froid, tout devient gris. Le vert, le bleu, le monde. Ses jambes le traînent jusque chez lui, mais il n'est plus dans ses jambes. Il est tout entier dans la kitsune. Il est à l'heure et à l'ombre, il la retrouvera. Les semaines, les mois passent, mais pour Ono, il n'y a plus de temps ni d'espace. Seulement un point incandescent au creux de la nuit, là, où la renarde devenue femme et l'homme devenu flamme ne font plus qu'un. Le jour, il est en cendre, le jour, il est sans vie. Et ses parents, effrayés par ses yeux de plus en plus vides, ses joues creuses et son silence, décident d'aller consulter le sage Enyoshi, la ville. Au premier mot, le vieil homme devine l'envoûtement et prescrit l'isolement total. Le soir même, le garçon est ligoté à son lit et sa chambre barricadée. Tant que le soleil roule dans le ciel, Ono est un pantin docile que tout indiffère. Mais à la première étoile, au premier froissement de nuit, il revient en lui, tire sur ses liens comme une bête prise au piège, appelle, implore. Et chaque nuit, les aboiements déchirés lui répondent. C'est la kitsune qui l'attend, qui l'exige, qui rôde de plus en plus près, de plus en plus folle. Les cris de leur fils percent les parents, mais ils s'accrochent l'un à l'autre pour résister à ses supplications. Pour son bien. Pour son bien. Un soir, cris, aboiements et pleurs se mêlent, se confondent et gonflent dans le cœur des parents, mais ils tiennent toute la nuit, peur serrée entre leurs bras. Au petit matin, silence. La mère s'arrache à son mari, se précipite vers la chambre, débarricade en tremblant la porte. Pièce vide. Une brise soulève ses cheveux. Elle va jusqu'à la fenêtre brisée, et là, sur la terre humide, elle voit des traces de pattes. 8 pattes qui filent vers la forêt. Au loin, 2 voix animales, un cantique sauvage incendie le ciel. D'un un conte de Myriam Ruby tiré de son livre « Amoureux d'hier et de tout à l'heure ». Et celui-ci s'appelait « Ono et la Kitsune ». Merci infiniment, Myriam. On va continuer notre balade entre les mots de Myriam Ruby avec un deuxième conte. Il était une fois un prince insaisissable, toujours fuyant, toujours glissant entre les mots et les regards. Il s'appelle Johan. Et pour le piéger, il faut profiter de cet instant où il semble rêver, assis au bord de l'étang. Là, on peut voir toute sa personne qui est belle sans le vouloir. Pas pour agacer ces dames de la cour qui se demandent à quoi ça sert d'être aussi beau quand on est aussi bête. Oui, bête, c'est-à-dire sans pointu de l'esprit et sans éclat dans l'œil qui leur soit destiné. Si bête qu'il rit quand tous les autres pleurent et pleure quand il faudrait en rire, à croire qu'il ne comprend rien. Bref, pas mariable. Car si au premier coup d'œil les demoiselles frémissent, au second elles faiblissent. Et avec ça, pas de disposition pour la chose politique. Le roi s'en désespère. Même pas l'excuse d'être un artiste. La reine s'en désole. Alors, qu'en faire ? Rien. On le laisse au vieux pavillon de chasse qu'il préfère au lambris du palais. Et à ce qu'on prend pour une folie douce. Or, Johan n'est ni fou, ni sot, ni sourd. Il entend autrement, c'est tout. Ce que dit le vrai des gens, ce battement infime des ailes du dedans, il l'entend. Et le désir des chenilles, le rêve des crapauds, la patience des cailloux. Mais à trop entendre au-delà du bruit, il n'entend plus le quotidien des hommes. Il est seul sur sa rive, car au fleuve de sa vie, il manque un guet. Et au-dessus du fleuve passent les lunes et les soleils. Mais voilà qu'un soir, on cogne à sa porte. Rien d'étonnant. Sa mère parfois vient soupirer chez lui. Mais ce n'est pas sa mère, c'est une fille. Ou une étoile tombée, des yeux comme de l'eau noire, une brise de cheveux bruns et des courbes épousées par un corset rouge. Johan a souri comme on ouvre les fenêtres, comme on trouve ce qu'on fait là, comme on tombe à l'envers. Elle a franchi le seuil dans un froufrou de jupon noir. Il l'a suivi jusqu'à un grand divan. Leurs vêtements n'ont pas tardé à s'envoler, leur peau à se rencontrer. Et sans « je t'aime » et se sont dit le grand poème. Des jours, des nuits ont passé sans se faire remarquer. Johan n'était plus seul car elle et lui parlaient la même langue. Celle de la pierre sous le lézard, celle de la branche avec l'oiseau. Johan était heureux parce qu'il était sans question ni passé ni futur. Pourquoi craindre demain quand ses deux mains se posaient sur elle ? Il ne savait pas que les amours rares ne durent que le temps de nous donner le goût de la lumière et faire de nous ses serviteurs. Elle savait. Un jour, elle l'a regardé avec un sourire trop doux et elle a murmuré « Je dois partir ». Pour la première fois de sa vie, un « Pourquoi ?» a déchiré la bouche de Joanne. Elle a répondu avec ses yeux qui débordaient le noir, puis tête baissée sous ses cheveux, elle a lacé son corsage rouge et a poussé la porte. Il est resté sur le seuil, longtemps, à regarder le trou qu'elle avait fait dans le paysage. Des heures, des semaines ont passé, assourdissant de pourquoi. Puis sont venus des mots en pagaille, en rivière, si nombreux qu'il les a posés sur du papier pour s'alléger d'abord, puis pour tracer des routes vers celles qu'il avait perdues. Mais les routes aussitôt tracées se perdaient dans ses broussailles. Son cœur et ses doigts étaient noirs de mots. Il n'entendait plus rien que son chagrin. Un matin, pourtant un cri muet, une déchirure dans l'air l'a rappelé au monde. Il a couru dans le jardin et au cœur d'un rosier empêtré dans une toile, il a vu le papillon rouge et noir qui se débattait et l'araignée ventrue qui avançait vers lui. Vite, il a tranché entre eux la toile et doucement, fil après fil, il a désenglué l'insecte. Le papillon a semblé le regarder avec ses yeux d'encre. Puis, frémissement d'ailes, volute rouge et noire dans l'air, il a disparu. C'est elle, disait son cœur. Impossible, jurait sa tête. À partir de cette rencontre, il a laissé la fenêtre ouverte. Un soir, volute noire et rouge, un papillon, est-ce le même ? Est entré. Il a voleté autour de son visage, effleuré ses joues, ses paupières, sa bouche, puis s'est posé sur sa main. Joanne n'a plus bougé pour sentir encore. Sentir toujours sur lui ce poids de papillon. Ils sont restés longtemps comme ça, si longtemps que Joanne a fini par s'endormir. Lorsqu'il s'est réveillé, plus de papillon, et sur la feuille, à côté de l'encrier, ces mots tracés en lettres fines. Vis et dis. Joanne est retournée dans le monde. Ses cahiers sous le bras, il a appris à dire sans broussailles le feu des papillons, la valse immobile des roses, le lent voyage des arbres. On l'a appelé poète des deux rives pour ses mots passerelles entre visibles et invisibles. Et bien des années plus tard, il a rejoint la troisième rive contre son cœur qui avait cessé de battre. On a retrouvé un papier chiffonné avec ces mots écrits en lettres fines. Vis et dis. Merci pour votre écoute. Merci Myriam, merci encore une fois pour ce beau conte qui s'appelait, vous l'avez sans doute deviné, Les Deux Rives. Il s'est tiré conte amoureux d'hier et de tout à l'heure. Mmh. Et en plus petit, il y a marqué de ceux et de celles et ceux qui font de leur vie une belle histoire. Bon, qu'ici à Radio Dynamo, on est tous concernés.
Ouais. Par les belles histoires.
Ouais. Et par la belle vie.
Merci à vous deux, en tout cas.
À mercredi prochain.
Merci. Ouais, à bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'écouter
Qu'est-ce que tu racontes ?
À la semaine prochaine.